Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver en cet été finissant, un été marqué par des incendies qui ont pu, l'espace de quelques semaines, nous faire oublier le grand trouble des relations internationales, un grand trouble dont il n'est pas sûr qu'il soit l'objet, hélas, d'un débat argumenté et documenté à l'occasion de la campagne présidentielle qui s'annonce. Alors que notre monde est en pleine mutation et que notre invité, Pierre de Lauzin, parle même d'un basculement prodigieux. Aussi avons-nous grand besoin de comprendre ce qui est à l'œuvre sur la scène toujours tragique du monde et au-delà de repérer les éléments de raison, d'intelligence des situations qui pourraient contribuer à un peu moins de désordre ou contribuer, en l'absence de régulateurs surplombant les acteurs des relations internationales, de contribuer, nous le verrons parce que c'est aussi l'objet de cette émission, de contribuer à une espèce de bien commun. Mais c'est là qu'intervient la stratégie. En effet, on parle beaucoup de stratégie, notamment depuis février 2022, sur tous les plateaux, de guerre à haute intensité, de guerre hybride. Dans l'Église, on s'interroge sur ce retour de la guerre et l'observateur un peu averti note quelque écart entre l'utopie et le réalisme de l'appareil diplomatique du Saint-Siège. Mais derrière tous ces mots, quelle réalité au pluriel? Pour y répondre, j'ai le grand plaisir de retrouver Pierre de Lauzin, que nos auditeurs connaissent bien. Bonjour cher Pierre.
Bonjour à tous.
La dernière émission que nous avons eue ensemble, cher Pierre, date de juillet 2025, il y a un an, à propos de la guerre juste. Vous êtes auteur d'un petit ouvrage remarquablement synthétique, pédagogique et éclairant, intitulé « Ni règne de la loi, ni loi de la jungle, géostratégie et bien commun », publié en mars dernier aux éditions Bolène, une jeune maison née en 2018 et qui, je le souligne, a le très bon goût d'offrir régulièrement aux lecteurs des ouvrages qui nourrissent vraiment l'intelligence, voire les âmes. Alors je rappelle brièvement, Pierre de Lauzin, que polytechnicien et énarque, comme l'un de nos anciens présidents de la République, vous avez dirigé des associations professionnelles dans le domaine financier et vous êtes de ces esprits rares qui contribuent sur des sujets essentiels à aider au discernement. J'en veux pour preuve quelques-uns de vos ouvrages, j'en ai compté une vingtaine, mais c'était peut-être pas complètement exhaustif. Par exemple, « Les nations et leur destin » chez François-Xavier de Guibert en 2005, « le temps, le silence et l'éternité ».
« Temps, histoire, éternité ».
Oui, « Temps, histoire, éternité » chez Parole et silence en 2006, « L'argent, maître ou serviteur » MAM 2019, et plus directement consacré à notre sujet de ce jour, « Le guide de survie dans un monde instable » chez Terra Mare 2017, et puis en 2024 aux éditions Bolène, La guerre juste. Et puis je voulais signaler aussi le grand intérêt de votre blog, www.pierredelauzin.fr, où l'on trouve toutes vos prises de position documentées, argumentées sur l'actualité au sens large. Alors, si vous le voulez bien, cher Pierre de Lauzin, nous allons dans une première partie évoquer, avant de s'interroger sur quel bien commun possible au niveau international, et bien sur la stratégie et sur sa nature paradoxale. Puisque dans votre ouvrage, vous nous dites que ce qui est intrinsèque à la stratégie, alors qu'on pourrait imaginer que la stratégie soit le domaine du très prévisible et du très déterminé, vous nous dites que la stratégie a une nature paradoxale, notamment du point de vue de l'imprévisibilité et de l'indétermination des facteurs qui la fondent. Alors c'est sur ce premier point que je souhaiterais vous interroger.
Oui, c'est un point de réalité qui me paraît très important d'aborder en premier. Quel que soit le souci qu'on puisse avoir ensuite du bien commun, mais le bien, la recherche du bien, doit être basée sur l'analyse de la réalité. Et dans les relations internationales, évidemment, la réalité la plus profonde, c'est la possibilité d'un conflit, et en particulier d'un conflit armé. Or, effectivement, la caractéristique d'un conflit, c'est que c'est un choc de deux volontés. Donc chacune cherche un objectif contradictoire avec les objectifs de l'autre et qui, dans une mesure importante, notamment dans la guerre, utilise pour cela la destruction. Donc je vais détruire l'adversaire, naturellement, lui il veut éviter d'être détruit et il veut détruire. Et ces deux volontés contraires sont deux volontés, sauf cas très particulier, rationnel, sinon du moins une dose importante de rationalité, et il déploie tous les moyens de cette rationalité pour gagner par rapport à une puissance de rationalité comparable, mais en sens inverse. Le résultat, c'est que c'est effectivement tout à fait imprévisible. Ça joue ensuite sur énormément de facteurs qui ne sont pas mesurables aisément. Il y a le fameux brouillard de la guerre dont parlait Clausewitz, et à juste titre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un brouillard, c'est-à-dire on ne le voit plus de façon précise. Mais même avant, quand on mesure des forces, on se trompe forcément sur ses forces et sur celles de l'autre. Et deuxièmement, ces forces évoluent, et les uns les autres les font évoluer. Alors la guerre russo-ukrainienne est un bon exemple extraordinaire de ça. Me rappelle à l'époque que la plupart des experts, qui sont des gens très certainement compétents, et je le dis sans ironie, étaient convaincus que l'armée russe ne ferait qu'une bouchée les Ukrainiens. Ça n'est pas du tout ce qui s'est produit. Ça veut dire une grave erreur d'analyse sur eux-mêmes et leur stratégie du côté des Russes, et une grave erreur de tous sur la capacité de résilience indéniable des Ukrainiens. Donc tout le monde s'est trompé à ce moment-là, mais tout le monde a continué très très régulièrement. Et si vous prenez la situation aujourd'hui, les deux continuent la guerre. Autrement dit, les deux jugent qu'il est plus raisonnable ou rationnel de leur point de vue de continuer plutôt que d'accepter un cheminement de recherche de paix qui, dans la manière dont ça se présente, leur paraît beaucoup moins favorable que d'essayer de continuer et d'obtenir quelque chose de mieux en continuant la guerre. Et donc la guerre continue. Et là, cet paradoxe, c'est que dans cette incertitude, il y a des facteurs importants pour qu'une guerre continue, même alors même que l'on voit qu'elle a des effets dévastateurs. La 14-18 était aussi un extraordinaire exemple. D'ailleurs, tout le monde a souligné la ressemblance entre la guerre russo-ukrainienne et 14-18. Mais il est de fait que les arguments très puissants font qu'on continue. Et donc, il ne faut pas oublier qu'en 1918 encore, il y a eu l'offensive Hindenburg et l'Ludendorff qui pensaient pouvoir percer le front allié. Donc, en 1918, quelques mois avant la capitulation de l'Allemagne. Donc, il y a cette incertitude qui fait qu'une fois qu'une guerre est engagée, on ne sait pas exactement ce qu'elle donne et on ne sait pas bien comment l'arrêter. Et ça, c'est très intéressant, au-delà même de la guerre et de la stratégie, parce que ça nous rappelle qu'en matière de sciences humaines, il ne peut pas y avoir la capacité de prévision que la science promet dans les autres domaines. La science nous dit, voilà, je fais des expériences, donc je peux faire des calculs et prévoir ce qui va se passer. Eh bien là, ce n'est pas possible. C'est intrinsèquement impossible. Dans les affaires humaines, il y a un élément d'incertitude absolue qui règne. Évidemment, quand il s'agit d'une affaire grave comme la guerre, ça pousse plutôt à une certaine prudence dans l'action, d'où la théorie de la guerre juste, qui, contrairement à ce que certains croient, n'est pas une justification de la guerre, mais exactement l'opposé, c'est-à-dire un essai de modération de la volonté de guerre qui vient régulièrement, précisément en fonction de ces considérations de prudence.
Alors, puisque vous avez évoqué Clausewitz à propos du brouillard de la guerre, on peut l'évoquer aussi à propos de l'ascension aux extrêmes. Et vous dites, vous parlez de prudence dans l'action, mais la prudence dans l'action peut engendrer ou accélérer la montée aux extrêmes, parce que on devient très prudent en imaginant tous les scénarios possibles de l'adversaire, et dans ce cas-là, on peut, je pense en matière nucléaire notamment, anticiper telle ou telle réaction et prendre des mesures qui vont aggraver le risque d'affrontement nucléaire. Et en 14, l'été 14 montrait que tous les agencements diplomatiques entre Français et Russes d'un côté, entre Allemands et Autrichiens de l'autre, faisaient que la prudence, c'était de mobiliser pour éviter d'être agressé, et que finalement, on est arrivé à un engrenage fatal. Donc je note que c'est aussi un autre paradoxe que vous évoquez à propos de la stratégie, c'est que la prudence ne contribue pas forcément à apaiser les situations.
Le raisonnement. Le raisonnement, parce qu'effectivement, une fois que vous êtes engagé, et que vous avez décidé de continuer, vous avez forcément une tentation considérable de mettre encore plus de moyens. Et c'est ça qui évidemment conduit à la montée aux extrêmes que Clausewitz avait très bien vu. Et Clausewitz l'avait très bien vu parce qu'il était à une époque révolutionnaire ou post-révolutionnaire, donc où les barrières antérieures avaient été arrachées. Et à ce moment-là, la montée aux extrêmes peut se continuer tranquillement. Il ne faut pas oublier que cette décision, en un sens satanique, pour parler comme Joseph de Maistre, de la lever en masse, c'est-à-dire de convoquer toute la population masculine pour l'envoyer au combat, était une des grandes conquêtes de la Révolution. Ça a été absolument terrifiant. Et comme la France était surpeuplée à l'époque, beaucoup plus peuplée que les autres, elle avait un avantage démographique énorme. Et donc, elle a été la première étape de la montée aux extrêmes par ce moyen-là. Clausewitz, regardant Napoléon déployant avec le brio militaire qu'on lui connaît, cette force extraordinaire, a vu effectivement que ça pouvait être payant pendant un temps. Ça l'a été un temps, mais ça n'a plus été après, parce qu'évidemment, c'est là aussi les logiques de la stratégie, c'est que face à une puissance de ce genre-là, les autres en face bougent et se coalisent, et puis à un moment donné, ils finissent par être plus forts et exploiter l'erreur du dominant. Et l'erreur du dominant, ça a été bien sûr la campagne de Russie.
Et la guerre d'Espagne, où la mobilisation populaire
et où
répondait un peu à la levée en masse révolutionnaire.
En Espagne,
animé par un tout autre esprit,
voilà.
une levée en masse d'un peuple,
une forme de levée en masse. Du coup, Napoléon a mis des moyens qui étaient totalement disproportionnés à l'enjeu. Dominer l'Espagne ne justifiait absolument pas d'y mettre ces moyens-là, qui lui ont manqué après.
Donc pour cette première partie où nous évoquons la nature paradoxale de la stratégie, on peut aussi s'interroger, c'est en vous écoutant que cette question me vient. Je disais que vous êtes polytechnicien, donc vous vous intéressez forcément à l'intelligence artificielle. J'étais en train de me demander, en vous écoutant, si on entendait parler avec Anthropique, et puis les relations un peu compliquées entre le Pentagone ou telle société américaine, est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait tempérer le caractère imprévisible et indéterminé des fondamentaux de la stratégie?
Non, puisque vous avez en face une autre puissance qui a aussi utilisé l'intelligence artificielle. Donc de toute façon, si vous prenez au cas des Américains par rapport aux Chinois, en gros, c'est les deux piliers de l'intelligence artificielle au niveau mondial, avec encore un léger avantage aux Américains. Mais les Chinois font très fort et ils sont très autonomes là-dessus. Donc, c'est pas du tout évident, mais c'est pas évident non plus par rapport à des puissances totalement nulles de ce côté-là. Là, vous avez un exemple spectaculaire qui est la guerre en Iran, où tous les objectifs techniques que visaient les Israéliens et les Américains ont été obtenus. Et le résultat stratégique, lui, n'est pas du tout obtenu. C'est-à-dire, l'Iran n'a pas cédé. Et je dirais même au contraire, s'est emparé de gages dont il n'avait pas osé s'emparer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, la victoire technique, si on peut dire, pour les artilleurs, les gens en charge des tirs, mais échec stratégique au moins pour le moment. Donc supposons même que, d'abord, ils utilisent déjà l'IA tout à fait dans le cas américain, pas du tout suffisant, sauf si leur chat GPT ou Claude ou autre leur disait « Attendez les amis, j'analyse maintenant la situation politique en Iran et je pense que c'est une erreur d'aller là-bas ». Ce qui n'est pas impossible, mais ça suppose une IA extraordinairement bien entraînée pour saisir des signaux faibles sur ce qui se passe dans le pays, en Iran, ce qui n'est probablement pas le cas. Autrement dit, cette information majeure ne serait pas parvenue. Je ne pense pas qu'une IA soit en état d'analyser la fragilité du régime en février dernier.
Et pour ce qui concerne la planification, j'y reviens quand même, parce que ce qui a rendu perplexe quand même beaucoup de gens, vous évoquez le détroit d'Ormuz, c'est comment, justement, si la stratégie est vraiment aussi... marqué par l'indétermination, comment dans votre esprit vous analysez le fait que cette question du détroit d'Ormuz et sur le risque de fermeture n'ait pas été pensée ou envisagée par les planificateurs américains ?
Ah, moi, je ne suis, pas dans le secret du Pentagone. Mais, je suis convaincu qu'ils l'ont envisagé et qu'il y a un tas de généraux, d'amiraux qui ont soulevé le problème. Ou diplomates, parce que, je veux dire, n'importe qui, en regardant une carte, a la question à l'esprit. Donc, ils y ont pensé, ils ont passé par-dessus. L'analyse la plus rationnelle, c'est qu'ils ont très gravement sous-estimé la capacité de résilience du régime iranien. C'est-à-dire qu'ils ont joué un effondrement, sinon un effondrement politique avec une révolution, au moins un effondrement de la volonté de se battre, ou quelque chose de ce genre-là. À ce moment-là, la campagne qu'ils ont menée au départ avait sa rationalité. Si vous imaginez l'Iran sous la forme d'une poutre très fragile, en tapant dessus, normalement, elle casse. Alors, nous, ce qu'ils ont tapé dessus, non seulement elle n'a pas cassé, mais elle a défoncé le mur.
Alors, dans ce contexte d'une stratégie paradoxale, vous avez recours à deux images qui sont aussi amusantes que passionnantes. C'est l'image du renard et du hérisson. Alors, je voudrais que vous nous en disiez plus.
Oui, alors l'idée au départ n'est pas de moi.
Oui, mais
le hérisson, dans cette image, c'était dans un auteur anglo-saxon, donc je laisse son l'honneur.
Non, mais l'image est parlante.
L'image est parlante, c'est-à-dire le hérisson, pour eux, est obstiné sur un système et une idée, il applique son système. C'est un de gros avantages de cohérence intellectuelle. Je pourrais même ajouter de cohérence dans la communication, parce que la communication, du coup, est claire et directe. Et notamment, toutes les communications en blanc et noir, les méchants et les gentils, etc., sont dans cette stratégie-là. Tandis que le renard, dans cette présentation-là, c'est celui qui s'adapte, qui regarde la situation et qui bouge en permanence selon la situation. Il est bien évident que l'incertitude de la stratégie avantage le renard, c'est clair. Mais le fonctionnement politique des régimes, et notamment démocratiques, favorise l'attitude de type hérisson. Ça peut d'ailleurs être mauvais de deux manières. C'est mauvais si vous n'arrivez pas à gagner parce que vous êtes sur une stratégie qui n'est pas gagnante et vous continuez quand même. Mais ça peut être aussi mauvais parce que vous gagnez, mais vous gagnez excessivement et vous ne savez pas quoi faire de votre victoire. Modèle 1918. 1918, manifestement, il y avait deux stratégies plus rationnelles. L'une, c'était de ne pas maltraiter l'Allemagne. Et l'autre, au contraire, était de la diviser. Les deux étaient rationnels, mais ce qu'on a fait n'était pas rationnel.
Et d'ailleurs, vous, à propos justement de ce qui peut être paradoxal dans ces affaires de guerre et de paix, c'est que, de façon assez naturelle, on réclame une paix immédiate, mais qu'il peut parfois, pour le long terme, être plus utile pour la communauté internationale de poursuivre la guerre pendant un certain temps.
Oui, c'était l'attitude de type renard, c'est-à-dire l'analyse de la situation. Il est regrettable qu'on en soit arrivé à la guerre. Très bien. La guerre est lancée et elle a ses caractéristiques qu'on a dites, et notamment cette tendance à s'auto-entretenir et puis à un moment donné, avoir un problème dont il faut trouver une solution ou une autre. Et la solution n'est pas nécessairement disponible diplomatiquement. Et à ce moment-là, c'est clair que la guerre, en avançant progressivement, elle se déclenche une solution, qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut intervenir pour essayer de saisir une occasion de paix en arrêtant la guerre suffisamment tôt. Donc, il y a un intérêt à l'arrêter suffisamment tôt, mais suffisamment tôt ne veut pas dire l'arrêter tout court. Et effectivement, décréter par en haut que ça s'arrête, même si on y arrive matériellement, comme on n'a pas résolu le problème, tous les facteurs qui ont conduit à la guerre sont toujours là, et ça recommence.
Et il me semble que l'automne 18 me paraît bien illustrer ce que vous êtes en train de dire. Autant qu'on le sache, la position de Foch est d'arrêter au plus tôt la guerre. Mais d'un autre côté, du côté de Pétain et d'autres, l'idée c'était de mettre en œuvre la grande offensive prévue sur l'Allemagne, et puis de peut-être porter la guerre en Allemagne plus profondément. Mais Foch répondait, on a assez perdu de monde, et puis deuxièmement, il y avait une vision géopolitique, c'est que les Américains ne cessaient de prendre de la place dans le conflit, et donc je considère que par rapport à ce que vous dites sur ces Comment on pèse l'intérêt, les inconvénients de poursuivre la guerre ou de faire la paix immédiatement? L'automne 18 me paraît assez bien refléter la difficulté, l'incertitude.
C'est-à-dire, même après coup, vous ne pouvez pas dire d'une manière totalement convaincante et rationnelle, l'une des deux attitudes était manifestement meilleure. Ce n'est pas du tout évident. Il y a un jugement de situation qui est pris, et un jugement de situation qui ne peut pas intégrer tous les développements de ce qui s'est produit après. Mais il y a quand même aussi une logique qui n'a pas été suivie, c'est que l'attitude à la Foch, j'arrête très tôt, devait embrayer sur une attitude plus favorable à l'Allemagne. C'est-à-dire une attitude plutôt Westphalie, ou même 1815. En 1815, ils n'ont pas écrasé la France, les Alliés. Ils l'ont traité comme un pays normal qu'ils ont réintégré dans le concert européen. Donc à ce moment-là, l'attitude aurait conduit plutôt à ne pas traiter l'Allemagne comme le pays des monstres, mais à la réintégrer dans le concert européen. C'est pour ce que c'est cohérent et ça a un sens. Et la deuxième attitude, d'aller sur l'Allemagne, ça voulait dire qu'évidemment, à ce moment-là, on changeait complètement le statut de l'Allemagne, et soit on le cherchait à la réformer politiquement comme après 1945, soit on la redivisait tout simplement. Et c'était assez cohérent aussi. Mais vous voyez qu'il y a un problème de cohérence entre l'attitude militaire et l'attitude diplomatique derrière.
C'est ce là, que on a été incohérent. Se distingue entre la fin de la guerre vue par le politique, c'est-à-dire quel objectif peut-être quasi de long terme ou moyen terme à la politique, et puis quelle stratégie on met en place pour correspondre à cela.
Voilà, mais le stratégie et le côté militaire doit être complètement respecté dans sa logique propre, mais il doit être subordonné à la logique politique. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Et sachant que les stratégies militaires ne sont pas neutres par rapport aux résultats qu'on veut obtenir.
Et alors je reviens à votre, vous dites, c'est pas la vôtre, mais enfin, dans le livre, elle est très bien expliquée, le hérisson et puis le renard. Si on l'applique au conflit en Ukraine actuellement, est-ce que l'on peut dire que la position des Européens, en tout cas de la coalition des volontaires animée par la France, est plutôt, depuis au moins 2 ans ou 3 ans, du côté du hérisson? Du côté américain, on a l'impression d'avoir un renard qui ne sait pas trop ce qu'il veut.
Oui, c'est un renard indécis. En plus, il y a eu plusieurs renards successifs.
Ouais. Mais du côté européen.
Les Européens sont clairement du côté d'hérisson, c'est-à-dire qu'ils ont un raisonnement extrêmement abstrait, donc de type idéologique, global, basé sur la constatation réelle que la Russie était au moins en février 22, a été agresseur. Bon, il y a tout un passé qui est beaucoup plus compliqué. Enfin, matériellement, c'est eux qui ont engagé des opérations à niveau militaire d'ensemble. Donc, c'est clair. Donc, qu'on condamne moralement la Russie, c'est une chose. Mais après, la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et comment ça doit se développer. Et là, la position européenne est une position qui est extrêmement idéologique. Et d'autant plus paradoxal qu'elle est idéologique sans avoir les moyens, parce que les Américains auraient eu une position extrêmement idéologique de bout en bout, c'était plus en rapport avec leurs moyens. Tandis que dans le cas des Européens, c'est pas les moyens, ils ne disposent pas de ces moyens. Même encore aujourd'hui, l'Ukraine doit faire appel, y compris à une entreprise privée comme celle d'Elon Musk, pour arriver à combattre, une entreprise privée américaine. Mais c'est des moyens que les Européens ne pourraient pas le fournir. Donc il y a sur ce plan-là une attitude qui n'est pas extrêmement rationnelle.
Il y a un peu d'immoralité ou d'amoralité dans la position.
Et oui, c'est-à-dire que si on prend le vrai sens de la moralité, qui est là, quand même, la moralité, ce n'est pas l'abstraction, c'est la recherche de quelque chose qui est bien. Est-ce que c'est bien de continuer à laisser l'Ukraine se faire broyer, parce qu'elle se fait broyer, du fait que les Russes sont très méchants? Mais oui, ils sont très méchants, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Mais justement, le méchant continue à taper. Et nous n'y pouvons rien. Et je dirais même, on y peut de moins en moins, parce qu'évidemment, la guerre en Iran est venue là-dedans, ce qui fait que les moyens de lutte anti-missiles des Ukrainiens sont beaucoup plus faibles qu'avant. Les Européens peuvent partiellement s'y substituer, mais beaucoup trop partiellement. Et donc, effectivement, ça s'aggrave chaque jour pour l'Ukraine. C'est probablement pas extraordinairement rationnel. Et donc là, on va voir ce que va donner les discussions avec les Américains. Mais enfin, il est très notable que celui qui fait l'aller-retour entre Moscou et Kiev, c'est les Américains, c'est pas les Européens.
Alors, continuons notre, euh, notre entretien. Et je voudrais maintenant aborder la question de la guerre juste. La stratégie peut mener, pas toujours, mais parfois, à faire la guerre. Et quand on fait la guerre, dans le monde tel qu'il est, on fait la guerre pour des motifs. Alors, selon que l'on se trouve dans tel ou tel pays, ou peut-être dans telle ou telle civilisation, la question de la justice appliquée au conflit n'apparaît pas de la même façon, mais en Occident notamment, et au moins depuis Saint-Augustin, mais il y a aussi des sources dans l'Antiquité, mais bon, admettons que Saint-Augustin pose le premier nettement la question de la guerre juste. Plusieurs questions me viennent à l'esprit. Est-ce que l'on peut encore parler aujourd'hui de guerre juste? Et est-ce que, quand on voit le manichéisme à propos des opérations en Ukraine, est-ce que la guerre juste est devenue, dans les mains de nos démocraties, un outil de domination particulier? Mais première question, voilà, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous avez écrit précédemment, voilà. Oui, mais j'aimerais bien, un an après notre émission, et les choses ont un peu changé sur la scène du monde, ce que l'on peut dire aujourd'hui de la guerre juste.
Voilà, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la guerre juste, c'est-à-dire la guerre juste, et contrairement à ce que certains, notamment au Vatican, disent, ça ne consiste pas à dire que la guerre qu'on mène est juste et à s'en servir comme prétexte. C'est une théorie bien précise, développée effectivement notamment à partir de Saint-Augustin, mais notamment tout le Moyen-Âge, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs, il y est toujours, et qui, au contraire, cherche à déliminer les cas où l'on peut dire qu'une guerre est juste et où il est juste de la faire. Et donc, c'est une théorie garde-fou, c'est une théorie de limitation de l'intention de guerre ou de la tentation de faire la guerre. Parce qu'on y dit non seulement, évidemment, que l'objectif doit être juste, objectivement, la décision prise par l'autorité qu'il faut, qu'il n'y avait pas d'autre moyen de régler les problèmes.
Proportionnalité des moyens.
La proportionnalité, etc. Mais on dit aussi, il faut avoir une conviction raisonnable qu'on a des chances sérieuses de gagner, d'abord. Parce que lancer une guerre sans avoir des chances raisonnables de gagner, c'est tout simplement stupide, même si votre cause est excellente. Deuxièmement, que vous ayez aussi une conviction raisonnable que le résultat sera meilleur que si vous ne faisiez pas votre guerre. Si vous prenez ces conditions-là et que vous les appliquez à l'attaque sur l'Iran, manifestement, ce n'est pas une guerre juste. On peut dire beaucoup de choses sur l'Iran. Il serait sûrement désirable que le régime iranien saute, sûrement, en soi. Mais le problème, c'est que faire une guerre pour obtenir ce genre de résultat, c'est trop irrationnel, c'est-à-dire les chances de succès sont trop faibles. Et puis, même le résultat en Iran, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas dire que le résultat va être nécessairement meilleur. En tout cas, ce qui est clairement, l'expérience a montré, ce qui était beaucoup moins bon, c'est qu'effectivement, le détroit d'Ormuz maintenant est sous le feu des Iraniens, et avant, les Iraniens n'avaient jamais franchi le pas. Donc, autrement dit, on est arrivé à un résultat bien moins bon que ce qu'on avait avant, alors même que sur le plan militaire, on a obtenu le résultat qu'on voulait. Donc, la théorie de la guerre juste s'applique magnifiquement pour dire que non, elle n'est pas à faire. Le pape Jean-Paul II l'avait appliqué en son temps à l'invasion de l'Irak, la guerre d'Irak, pas la guerre du Golfe avant. La guerre du Golfe avant, à mon avis, se justifie.
Avec des justifications.
Elle se justifie sur la guerre juste, puisque l'Irak de Saddam avait agressé et annexé le Koweït sans déclaration de guerre, sans rien, sans motif, etc. Et donc, il était légitime d'aller au secours du Koweït. Ça, c'était, à mon avis, une guerre juste. Mais alors, l'invasion, elle, bah, absolument pas.
Et avec des motifs aussi
Les motifs étaient fallacieux, mais à la limite, même s'ils étaient un peu moins que ce qu'ils étaient en réalité, ne serait-ce que la clause de savoir, d'être sûr qu'on aura un résultat qui sera moins mauvais que ce qu'il y avait avant. Or, il est bien évident qu'il valait mieux s'entendre avec Saddam, comme d'ailleurs il valait mieux s'entendre avec Kadhafi. Kadhafi était une ignoble ordure et un assassin, mais il valait mieux s'entendre avec Kadhafi que le faire sauter.
Mais vous posez une question de, enfin non pas de ressources humaines, mais de capacité à mobiliser les cerveaux pour discerner, parce que ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que quand on voit quand même dans le monde occidental, et puis vous évoquez le conflit en Irak et puis ses motivations, ou l'invasion de l'Irak, on a quand même des fondations, on a des universitaires, on a des militaires de haut niveau, et comment peut-on expliquer que cette nécessaire, ce nécessaire discernement, cette anticipation sur la question iranienne, sur la connaissance d'un régime, de la solidité de la population, mais c'était valable pour l'Ukraine vis-à-vis des Russes. Qu'est-ce qui fait que pour des situations aussi graves, avec des risques de conflits aussi graves, on ne perçoive pas les éléments qui objectivement, vous disent n'y va pas.
Toute l'histoire est pleine de décisions qui apparaissent complètement irrationnelles après coup. Même en se remettant dans les éléments de l'époque, on voit que c'est complètement irrationnel. Mais dans le cas russe, je pense qu'il y a eu une intoxication par un appareil de pouvoir, et notamment un appareil militaire, qui a tous les défauts de l'URSS. L'URSS, si vous voulez, le grand problème, c'est que le pouvoir n'avait pas les éléments de prendre des bonnes décisions, parce qu'il n'était nourri que par son propre appareil, qui lui-même avait ses propres stratégies, soit intellectuelles, soit tout simplement des stratégies personnelles de gens qui sont en place. Et donc, manifestement, Poutine, avec tous ses défauts, n'a pas eu l'information suffisante sur l'état de l'armée russe. Manifestement pas. Manifestement pas. Mais les Américains, au moins ceux qui s'exprimaient publiquement, ne l'avaient pas non plus, puisqu'ils croyaient que les Russes gagneraient très vite. Donc il y a eu surestimation. Mais je dirais la surestimation, dans le cas américain, on la comprend mieux, puisqu'ils sont au deuxième degré, ils ne sont pas dedans. Dans le cas des Russes, c'est clair, c'est une intoxication bureaucratique. Ça me paraît totalement évident. Au moins sur la faisabilité, parce que, encore une fois, pour une guerre soit juste, il faut avoir des chances raisonnables de succès. Même en supposant que M. Poutine se convainque subjectivement que sa guerre est juste, encore faut-il qu'elle puisse être gagnée assez facilement. C'était faux. C'était faux parce qu'il avait de mauvaises informations. Et son armée, au début, était parfaitement lamentable.
Et si j'en reviens à l'Iran, comment vous... Vous voyez, je ne vous demande pas d'être prophète, mais comment les Américains peuvent s'en tirer à peu près honorablement dans cette situation-là à l'automne 2026 ?
Oui, par définition, avec tout ce qu'on a dit, ce n'est pas possible de savoir, bien évidemment. Comme je crois qu'on peut exclure l'idée que le régime s'effondre à brève échéance, le régime est donc toujours là et a compris qu'il avait un certain nombre de leviers. Bon, donc moi, je ne vois guère qu'un compromis bâtard qui arrivera à une situation qui est probablement moins bonne du point de vue américain que ce qu'il y avait avant.
Avec une taxation possible, qui enrobée
d'une manière ou d'une autre et qui permet d'arrêter les frais. Ce n'est pas très facile parce qu'évidemment, du côté israélien, les priorités ne sont pas les mêmes. Pour les Américains, détruire l'Iran n'est pas un objectif stratégiquement fondamental. Pour les Israéliens, oui, puisque l'Iran a clairement comme objectif de détruire radicalement Israël, c'est-à-dire de faire disparaître Israël. Donc, du point de vue israélien, il y a une volonté de se battre et des motivations sont bien plus grandes que du côté américain. Je pense que les Israéliens ne sont pas pour rien dans la décision d'attaquer l'Iran aussi. Et notamment avec cette capacité qu'ils ont eue absolument stupéfiante de décapiter complètement le régime, c'est-à-dire toutes les têtes principales du régime. Et le régime a très bien survécu.
Alors, dans ce contexte complètement incertain, et on va essayer quand même de préciser, pour l'intérêt de nos auditeurs, et puis, comme je le disais en introduction, on aborde une campagne présidentielle où, visiblement, les sujets internationaux seront peut-être traités de façon manichéenne, notamment à propos de l'Ukraine, vous êtes pour ou contre. Mais le contexte d'aujourd'hui, là, l'automne 2026, vous le décrivez dans votre ouvrage, est-ce qu'on est face à une nouvelle bipolarité États-Unis-Chine? Est-ce que c'est ça qui va marquer le monde de ce 21e siècle? Ou est-ce que vous posez la question, multipolarité hétérogène et inégale, donc vous n'êtes pas de ceux qui disent les BRICS sont unis, tous les régimes autoritaires sont proches les uns des autres et complotent contre l'Occident. Si j'ai bien compris votre propos, on est là encore dans une période d'incertitude.
Oui, on est dans un entre-deux. Moi, j'avais décrit ça dans l'autre livre sur le... effectivement, qui décrivait l'état de la... il y a 7-8 ans de la situation internationale, il disait qu'on est dans l'œil du cyclone.
Mais vous n'êtes pas trompé. Hein.
Ouais, on est sur 20 ou 30 ans où un grand nombre de pays se développent, souvent très rapidement, et ils se développent aussi en termes de puissance. Et ils ont un intérêt majeur et prioritaire à ne pas s'engager dans des opérations. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, parce qu'encore une fois, beaucoup de facteurs peuvent aller dans d'autres sens. Mais intrinsèquement, leur intérêt n'est pas celui-là. Et donc, il y a cette période où ce sont ces puissances qui montent, mais de façon différenciée, qui vont, à un moment donné, être les grands acteurs dans des moments où ils se heurteront plus directement, mais pas maintenant. C'est dans 20 ans ou 30 ans, peut-être. Donc, évidemment, le cas le plus évident, c'est la République populaire de Chine, qui, il y a 30 ans, ne faisait absolument pas le poids par rapport aux États-Unis. Maintenant, elle fait de plus en plus le poids dans un très grand nombre de domaines. Donc, le développement, et surtout, c'est un pays, ce qu'on mesure mal, c'est qu'on voit le côté idéologique, parce qu'on pense à Mao, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un pays de technocrates, c'est un pays d'ingénieurs, c'est un pays où il s'agit de bâtir, de construire, etc. On broie éventuellement la population, mais pour appliquer des grands plans technocratiques. Donc, certains sont extraordinairement réussis, comme le réseau TGV. Mais le réseau TGV, ça veut dire que pour des centaines de millions de Chinois, leur vie a été considérablement facilitée. Et les types le voient. Et donc, ils l'apprécient. Donc, le régime leur livre quelque chose qu'ils apprécient. Bon, ça, c'est en matière civile et intérieure, mais ils font la même chose en matière militaire. Là, actuellement, leur flotte est, en termes quantitatifs, supérieure à l'américaine. Probablement pas qualitativement, etc. Mais l'américaine vieillit. Mais quand vous regardez non pas la flotte, mais les chantiers navals, il n'y a pratiquement plus de chantiers navals aux États-Unis, enfin, pratiquement de très, très peu. Alors que l'écrasante supériorité américaine pendant la Seconde Guerre mondiale est évidemment une supériorité industrielle. L'état-major impérial de la marine japonaise savait que c'était horriblement dangereux d'attaquer les États-Unis à cause de cette puissance industrielle. Mais maintenant, c'est l'inverse. La puissance industrielle, la capacité à fabriquer de l'armement, elle est du côté chinois. Elle n'est pas du côté américain. Sauf dans certains domaines bien, bien particuliers. Mais dans la construction navale, c'est le contraire. En plus, le Taïwan, c'est juste à côté de la Chine et c'est très loin des États-Unis. Alors, évidemment, il y a les bases au Japon ou ailleurs, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on voit se dessiner le moment où il y a localement une surpuissance chinoise manifeste. Simplement, les Chinois, leur système a cet avantage-là, c'est que culturellement, et c'est facilité aussi par la structure du régime, ils raisonnent très long terme. Donc, ils n'ont pas pressé. Et ils ont totalement raison de ne pas être pressés du tout. Alors, évidemment, ils ont un petit doute, c'est de savoir, notre armée ne s'est jamais battue, parce qu'avant, c'était tout un autre monde. Oui, mais ça, on avait fait ce raisonnement, encore une fois, sur l'armée, la marine japonaise, et elle a écrasé la marine russe en 1904 ou 1905. Donc, on ne sait pas. Autrement dit, on voit que si on prolonge les courbes, et s'il n'y a pas de redressement américain, ça, il ne faut pas le sous-estimer, parce que c'est un pays qui a une capacité de coup de rein, de redressement qui est tout à fait impressionnante. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, loin de là. Mais c'est vrai que les courbes, pour le moment, jouent dans un sens de rattrapage puis dépassement chinois en matière militaire, notamment sur cette base extraordinaire qu'est l'industrie. Et là, on a vu tout récemment, c'est absolument impressionnant, de voir les Américains à court de munitions pour se battre contre la République islamique d'Iran. C'est absolument extraordinaire, à court de munitions contre l'Iran, c'est-à-dire dont l'armée, par rapport à l'armée américaine et puis l'armée de pacotille, ils ont été valeureux, ce n'est pas le problème, mais elles ne pèsent rien. Et ils sont à court de munitions. Donc, ça en dit long sur le besoin d'une capacité industrielle et sur les limites, alors même qu'on parle de missiles, c'est-à-dire de quelque chose qui n'a pas été négligé par les Américains, contrairement à la marine.
Mais est-ce que, pour vous, est-ce qu'il y a une espèce de fatalité à toute puissance de développer une puissance militaire qui aboutisse à un conflit? Parce que certains disent, non, regardez, la Chine, l'empire du milieu, ils se considèrent comme un monde à eux, ils ont une revanche à prendre sur l'Occident qui les a maltraités, mais de là à imaginer une rivalité, un affrontement de nature militaire avec les États-Unis, il y a une marge dont on ne voit pas que la nature même de la on voit pas que l'histoire de la Chine puisse mener à ça de façon naturelle. Mais vous, moi, je sens dans votre propos que, un petit peu comme la course aux armements avant 1914, voilà, il y a une espèce de fatalité.
Il y avait des raisonnements avant 1914 disant la guerre est impossible, s'arrêtera au bout de 2 semaines. Ces raisonnements n'étaient pas du tout idiots en soi, mais c'est évidemment complètement faux, comme on l'a vu. Bon, il y a un peu la même chose, que ce qu'on ne mesure absolument pas, c'est qu'en Asie, aujourd'hui, il y a des puissances qui montent. Il y a des puissances anciennes, comme le Japon ou la Russie, des puissances extérieures, comme les États-Unis, mais il y a des puissances locales, la Chine, l'Inde, mais aussi le Pakistan, potentiellement l'Indonésie, etc. Ces gens-là n'ont, dans le passé, pratiquement jamais été en interaction. Nous pensons au concert européen, où tous les pays européens, depuis des siècles, sont les uns en face des autres. Ils sont à la fois amis, ennemis, etc. Mais ils se connaissent. Ils ont une manière d'être en rapport les uns avec les autres. Ça ne marche pas toujours, mais enfin, ça marchait.
Mais même s'ils s'affrontent, c'est qu'ils se connaissent.
Ils se connaissaient. Là, ils ne se sont jamais connus. Il y a eu une guerre en 62 de frontières entre les Chinois et les Indiens. Mais c'est une guerre complètement frontalière.
Oui, puis en 71, entre Indiens et Pakistanais, avec la naissance du Bangladesh.
Non, mais là on est sur les gens qui se connaissent. Eux, ils se connaissent. Oui. Mais Chinois et Indiens, en fait, le seul rapport historique, c'est que les Indiens ont donné le bouddhisme à la Chine. C'est à peu près le seul rapport historique. Mais sinon, il n'y a absolument aucun rapport, d'aucune sorte, et ainsi de suite. Donc, il y a un apprentissage des rapports qui va devoir se faire entre des gens qui n'avaient pas de repère historique pour ça, du tout. Le seul repère historique, évidemment, c'est la surpuissance occidentale, autrefois, avec les puissances coloniales, ce qu'on appelait les puissances tout court, d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas beaucoup de repères de ce genre-là. Mais si vous êtes l'Inde, vous êtes un pays dont la population maintenant dépasse non seulement les milliards, mais celle de la Chine. Vous êtes une des grandes civilisations de la planète, personne ne peut en discuter. Vous pouvez aussi considérer que vous avez été maltraité historiquement, non seulement par les Britanniques, mais encore plus par les musulmans avant. Vous voulez exister. Alors, vous voulez exister, va dire que sur le plan militaire, vous allez développer une force. Et je pense qu'il est rationnel qu'il fasse ça. Je dirais que ce n'est pas immoral en soi. La question après, c'est évidemment ce qu'on disait, c'est d'avoir l'intelligence prudentielle pour que, quand le danger d'une guerre se profile, on sache l'éviter, parce que, dans la grande majorité des cas, les inconvénients sont quand même considérablement plus importants que les avantages. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment ça se produira. Mais si je prends, par exemple, les États-Unis avec la Chine, une guerre frontale et directe d'ensemble apparaîtrait complètement irrationnelle, effectivement. En revanche, à un moment donné, vu l'état des forces, les gens au pouvoir à Pékin décident qu'il faut régler cette histoire de Taïwan, parce qu'ils sont en surpuissance, ils pourront le faire. Mais il n'est pas évident que les Américains interviendront massivement. Ils lâcheront peut-être, même il y a bien des chances qu'ils lâchent en fait.
Mais quel
j'aime
intérêt...
beaucoup Taïwan, hein, je suis allé 3 fois et j'aime beaucoup le pays. Hein,
mais quel intérêt auraient les États-Unis à défendre Taïwan?
Ah, mais si, tout simplement par le fait que vous avez.
Les détroits.
C'est la dernière des lignes d'îles au large de la Chine, après quoi vous avez le Pacifique profond. En deçà, vous avez des eaux beaucoup plus faibles et où il est beaucoup plus difficile de dissimuler les sous-marins ou autres. Alors, une fois que la ligne Taïwan tombe, la Chine est directement branchée totalement sur le Pacifique. Elle contrôle déjà la mer de Chine méridionale, dont le nom est assez intéressant parce qu'il n'y a que. Un bout du quadrilatère qui est sur les côtes chinoises, tout le reste, c'est d'autres pays. Mais ils ont raflé tout ce qu'il y avait au milieu, et ils ont bétonné les îlots pour en faire des pistes, ainsi de suite. Donc, ils ont mis ça sous leur contrôle. Et là, ils sont juste à côté du détroit de Malacca, qui est, à la limite, presque plus important qu'Ormuz. Donc, il y a une puissance locale qui s'affirme. Mais c'est vrai que dans la tradition chinoise, là, si on suppose qu'il faut l'extrapoler, va par l'hégémonie, c'est-à-dire par l'acceptation respectueuse par des gens manifestement inférieurs en civilisation de la supériorité de la civilisation chinoise et notamment de l'empereur qui régnait à l'époque à Pékin. Bon, et là, il peut y avoir quelque chose d'analogue, c'est-à-dire de dire, attendez, nous sommes la plus grande puissance économique, mettons dans 20 ans, nous sommes la plus grande puissance économique et nous n'avons qu'une volonté de bienfait. C'est d'ailleurs ce qu'explique en long à la journée le régime chinois. Les routes de la soie, c'est une immense offensive, mais elle est purement économique. Et elle est censée apporter des choses, d'ingénieurs d'ailleurs, typiquement du régime, des ports, des voies ferrées, etc., à des gens. Et simplement, ce que je leur demande, c'est qu'on reconnaisse que cette extraordinaire bienveillance, et que face à cette bienveillance, on ait quand même un minimum de gratitude et de respect. Et suivez mon regard. Et donc, évidemment, tout sur le pourtour, ils sont tous assez inquiets. Et ils regardent du côté de l'autre hégémon américain, qui lui est moins immédiatement dangereux, parce qu'il est beaucoup plus loin, mais évidemment qui va être de moins en moins en capacité de les soutenir face à ce truc qui monte.
Eh bien, Pierre Delauzin, nous allons interrompre pour une toute petite, petit bobino, notre émission.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Défense de Radio Courtoisie et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Delauzin pour évoquer son ouvrage publié en mars de cette année aux éditions Bolène, « Ni règne de la loi, ni loi de la jungle, géostratégie et bien commun ». Et nous étions à ce moment de l'émission où nous évoquions l'espèce d'impérialisme doux de la Chine, s'appuyant, comme nous le disait Pierre Delauzin, sur une logique technocratique d'un côté et industrielle, ou en tout cas fondée sur la grande place des ingénieurs dans le régime. Et donc vous étiez en train de répondre à ma question. Est-ce que il y a un risque d'affrontement majeur entre Chine et États-Unis, risque d'affrontement militaire à propos de Taïwan, et vous nous disiez qu'en fait la question de Taïwan, elle était liée au fait que cette île était, si le verrou sautait, eh bien
c'est un verrou important
qui pourrait justifier que en cas d'attaque chinoise, les États-Unis réplique.
J'imagine, mais là encore, c'est des raisonnements, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas prévisible, mais j'imagine qu'il réagirait assez pour envoyer en même temps le signal aux Chinois, c'est pas nous en direct, c'est pas dire vous Chinois contre nous Américains. Nous intervenons activement, mais c'est pas direct. Je pense, et de toute façon, envoyer des troupes à Taïwan, c'est pas du tout évident, c'est loin. Ou alors c'est les bases au Japon, mais dire, on ne pouvait pas avoir dans des concentrations de troupes dans les bases ou de moyens du même niveau. Alors, en revanche, de l'autre côté, vous avez une concentration possible. Mais encore une fois, ils attendent que le fruit tombe.
Et d'ailleurs, vous disiez que vous aviez beaucoup de sympathie pour les Taïwanais, où vous êtes rendu,
oui, rendu plusieurs fois.
Quelle appréciation vous portez sur la population, votre impression générale sur...
C'est une population partielle d'un côté récente, parce qu'elle résulte du mélange entre ce qu'il y avait en 1945, c'est-à-dire des aborigènes, quelques Chinois et surtout une formidable japonisation. Le pays était entièrement intégré au Japon. Et ils s'y trouvaient bien. Ils ont un très bon souvenir des Japonais. Contrairement aux Coréens qui ont un souvenir épouvantable,
Les Taïwanais n'ont pas été maltraités par les Japonais.
C'était une île complètement miséreuse et périphérique, et les Japonais ont industrialisé, ont développé, etc. Donc ils ont un bon souvenir des Japonais. Donc s'il n'y avait pas eu la défaite en 1945, tout le monde considérerait
évident. Mais l'arrivée des partisans de Chiang Kai-shek
a beaucoup changé, parce qu'il est venu beaucoup de monde. Et le pays a été resinisé de manière parfaitement efficace. C'est-à-dire que c'est un pays chinois maintenant, sans le moins des yeux culturellement, j'entends. Et je dirais intéressant parce que vous retrouvez la Chine d'avant. Vous n'avez pas les défauts du régime, notamment en termes de tensions, en termes plus d'une certaine grossièreté, qu'on est moins à Taïwan. Donc le pays vaut la visite de ce point de vue, de le voir. Vous l'avez un peu à Hong Kong aussi, mais à Hong Kong, il y a tellement d'autres éléments britanniques, financiers, ainsi de suite. Et Taïwan, c'est plus naturel. Vous retrouvez quand même le côté industriel et ingénieur, hein, parce que quand on voit que la première firme est de très loin de chips de haut niveau, c'est une entreprise taïwanaise. Donc, c'est des gens tout à fait capables et compétents. Il faut voir que les relations économiques entre la Chine et Taïwan sont gigantesques. Gigantesques, c'est des dizaines de milliards que les Taïwanais ont investi en Chine et continuent à investir en Chine. Donc, les liens sont quand même très, très nombreux. Je ne sais pas ce que l'oligarchie financière ou économique de Taïwan dirait s'il fallait se faire broyer par le régime de Pékin. Je ne suis pas sûr qu'il trouverait ça très intéressant. Il préférerait essayer de trouver un accommodement avec les autres. Prenez Hong Kong. En termes de liberté publique, c'est affreux. Mais enfin, ça reste une zone économique spéciale totalement différente du reste de la Chine, avec un droit d'origine anglaise, avec des institutions financières tout à fait sur le modèle anglo-saxon. Ça continue à marcher. Donc, la Chine peut expliquer, mais attendez, nous, on n'est pas... Nous, on va avoir un principe, c'est qu'il est clair que c'est nous qui commandons. Mais
pour le reste...
Vous qui acceptez que c'est nous qui commandons, on peut trouver l'état d'accommodement. Et il le prouve.
Alors, si Taïwan est une zone de friction probable, est-ce que sur le globe, tel qu'il est aujourd'hui... Il y a, selon vous, des zones de friction qui pourraient aboutir, en tout cas être le théâtre d'affrontements majeurs.
Affrontements majeurs, si on entend par là impliquant une grande puissance, moi je n'en vois pas dans l'immédiat, puisque je suis personnellement, mais c'est un scénario, il n'y a pas de certitude, mais scénario sur cette idée d'un temps relativement long, où les gens se développent et se comptent. Et donc, bien entendu, il peut y avoir des tas de conflits, comme on le voit, effectivement, dont certains auraient probablement pu être évités, mais qui ne sont pas des conflits majeurs. Ils ne sont pas du tout à ce niveau-là. Ce n'est pas évident qu'il y en ait, qu'on serait discernable dès aujourd'hui. Mais on ne sait pas. Il y a quand même des troublions très, très difficilement prévisibles. Je prends par exemple... Monsieur Kim Jong-un, je ne pense pas qu'il soit facile d'analyser raisonnablement le processus de pouvoir à Pyongyang. Hein, ce n'est pas évident. Heureusement, il y a les Chinois derrière qui le tiennent plus ou moins par les basques, mais...
Alors, dans votre ouvrage, vous insistez aussi sur une constante de l'histoire, c'est le lien entre la puissance économique... capacité industrielle, l'accès aux matières premières, ce que vous appelez aussi la mobilité technologique, oui. La puissance financière et puis la puissance militaire. Si on applique tous ces critères à l'Europe, on voit mal que les parangons d'une défense européenne intégrée puissent... avoir quelques raisons d'être optimiste.
Oui, ça c'est tout à fait clair. Et en plus, les intérêts ne sont pas les mêmes. Je persiste à penser que la France est une position tout à fait particulière. Alors avant, on mettait en avant ses positions en Afrique. Bon, on pourrait essayer de regagner du terrain perdu. Mais pour moi, c'est pas l'argument majeur. L'argument majeur, c'est la présence mondiale. C'est-à-dire qu'on a un immense territoire maritime.
Le deuxième du monde.
Le deuxième du monde, absolument prodigieux. Et on n'a pas du tout les moyens en rapport avec ça. Quand vous rappelez la dernière grande puissance à domination mondiale, qui était la Grande-Bretagne, domination directe, ou domination hégémonique, pas directe, mais dire que sur les États-Unis, dans les deux cas, il y avait des moyens navals considérables. Nous ne les avons pas... au même degré, quantitativement. Je ne parle pas de la qualité des gens, qui est remarquable, au contraire. Mais c'est quantitativement. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une priorité à la marine, totalement, une priorité absolue, qui devrait faire l'objet d'une ferveur populaire, ce que nous n'avons absolument pas. Et de manière non moins tragique, ça rappelle la situation en 1755, où on n'a absolument pas compris l'enjeu de la lutte par rapport à la Grande-Bretagne, et la perte du Canada et de l'Inde, été avalé par l'opinion française, et notamment ces ignares absolus qu'étaient les philosophes, comme à peu près sans importance, alors que c'était le monde a basculé à ce moment-là. Il a
si
basculé vers l'hégémonie britannique.
Je vous interromps, mais peut-être que je n'ai pas tout à fait compris votre pensée sur ce sujet de la puissance maritime française. Le centre de gravité du monde se déplace ou s'est déplacé dans le Pacifique.
Vers l'Asie.
Nous avons le deuxième espace maritime du monde.
Oui, notamment au Pacifique.
Mais nous n'avons pas une marine en adéquation avec. Si vous étiez aux affaires, vous accorderiez donc, la priorité en termes de budget à la marine, et deux...
La marine peut aller ensemble des moyens. Moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas marin. Donc
vous avez une vision des choses.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut développer plus que d'autres choses. Je prends un exemple évident. Est-ce que le porte-avions a toujours l'avenir qu'on lui donnait? Je pense que j'en sais assez pour me dire que cette question est vraiment intelligente. Je ne sais pas y répondre, parce que là,
il y a une question.
Il y a une vraie question. Bon, donc là, c'est les gens qui savent ou des gens qui ont des idées techniques un peu plus avancées que les miennes. En revanche, la priorité stratégique me paraît complètement évidente. C'est-à-dire, comment on fait avec un immense domaine de ce genre-là, d'abord pour le mettre en valeur, pour s'en occuper, pour se l'approprier mentalement, c'est-à-dire reconnaître son importance, et puis le développer, y compris économiquement, industriellement, minièrement, etc. Et évidemment qu'on ait les moyens pour le défendre. Et là, pour le coup, on n'a pas le moins de doute que ce n'est pas nous qui allons avoir une attitude agressive. On ne va pas se mettre à attaquer les pays du Pacifique. Donc, il est parfaitement évident que c'est du défensif pur. Pareil dans l'océan Indien, même si l'enjeu est moins grand. Donc, ou même Clipperton, vous savez, le petit îlot au large du Mexique, dans le Pacifique, mais collé sur le Mexique. Il y a une zone économique autour qui est française.
Mais vous avez eu une carrière riche, vous avez vu beaucoup de choses. Moi, il me semble, mais qu'on reste quand même un pays continental et que malgré cet immense domaine, on raisonne de façon continentale.
C'est la malédiction de Paris de 1763. C'est la malédiction qui reste alors qu'on a une façade maritime considérable, d'abord atlantique, mais aussi méditerranéenne, considérable, mais qu'on n'a pas intégrée. Je prenais par quelqu'un l'envergure du général de Gaulle, manifestement, il ne voyait que le continent.
Oui, mais pourtant, il a un discours célèbre où il disait la marine, avec la force de dissuasion, finalement, retrouve la place qu'elle aurait...
Oui, c'était une marine très particulière, c'est celle des sous-marins.
Mais en fait, pour mettre en œuvre une logique de précaré.
Et qui est une logique de précaré, c'est une logique de précaré, tout à fait. Donc là, il y a, une mutation mentale. Il n'est pas évident qu'on la fasse dans les délais voulus, mais qui est
indispensable.
Très, très important.
Alors, abandonnons un petit peu nos visions maritimes relatives à la France pour aborder un autre sujet dont je sais qu'il vous tient à cœur. On évoquait ces zones de friction, ces puissances, soit hyperpuissances ou puissances régionales, mais qui montent en puissance. Et pourtant... Sauf en Afrique, le monde est confronté à une crise démographique gravissime.
Oui.
Est-ce qu'on peut imaginer que justement ces crises démographiques, cette baisse de la natalité, vieillissement de la population partout, je voyais encore à Singapour qui est dans une situation dramatique, est-ce que le vieillissement de la population peut tempérer les ardeurs bellicistes, si tant est qu'elles existent?
Oui.
Est-ce que ça peut être un facteur de tempérance?
Je pense, un secteur de tempérance. C'est tout à fait clair. On l'avait bien vu avec l'Union soviétique par rapport à la guerre qu'ils avaient déclenchée, d'ailleurs bêtement, en Afghanistan. Et ils se sont aperçus que c'était un fil à la patte, que le maréchal Joukov n'avait absolument pas en 1939-1945. En 1945, il envoyait broyer ses soldats avec un cynisme total qui dépassait 10 fois celui de Napoléon, qui est pourtant un champion dans la matière, mais... ça ne comptait pas la vie des gens, mais ça comptait pas parce qu'il y en avait beaucoup. Parlons pas du Japon, la pyramide des âges du Japon en 1939 est une pyramide pure, c'est-à-dire avec un bas de jeunesse très abondante, de natalité très très forte. Donc ça vous fait beaucoup de monde que vous pouvez mobiliser. Quand les gens ne font plus qu'un enfant, comme c'est maintenant la règle presque partout en Asie orientale, la perte de cet enfant est très embêtante. Mais les mamans soviétiques d'il y a 40 ans ont fait le même raisonnement, elles n'ont pas du tout apprécié. Donc ça, c'est un frein qui est réellement un frein important. Il y a un petit bémol qui est la Chine, puisque bien entendu, il y a l'enfant unique, mais c'est l'enfant unique, c'est un garçon. Oui. Et en gros, 15 à 20% de ces garçons n'auront jamais de femmes, puisqu'elles ne sont pas là, elles ne sont pas nées. Donc la campagne pour l'enfant unique, qui n'est pas de Mao, pour le rappeler, c'est Deng Xiaoping, le même qui modernisait le pays, avec le même raisonnement d'ingénieur, a lancé la politique de l'enfant unique, qui est une monstruosité absolue, non seulement sur le fond, mais aussi humainement. Je veux dire, il faut voir comment ils traitaient les femmes enceintes, etc. Bon, donc... Le résultat paradoxal, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de bonnes jeunes qui ont du sang dans les veines et qui n'ont pas beaucoup de défoulés. Alors peut-être que ça pourrait jouer dans l'autre sens. Mais c'est vrai que de façon générale, c'est probablement un frein aux ardeurs guerrières. Alors c'est un frein, mais aussi parce que nous avons en tête les guerres du XXe siècle qui nous ont frappés, qui sont des guerres de masse, la grande conquête de la Révolution. Mais pas du tout évident que les guerres de masse soient des guerres de masse. Donc à partir de ce moment-là, où les gens ont le sentiment que c'est une minorité de professionnels qui sont très bien payés et plus ou moins casse-cou, le frein joue beaucoup plus faiblement, à mon avis, qu'il n'aurait joué. Autrement dit, si on avait une démographie très faible, avec une guerre de masse, le frein serait important. Avec une guerre qui est une guerre qui demande engagement d'hommes, certes, mais beaucoup moins en quantité, beaucoup moins grande, et haute technologie, le frein joue beaucoup plus faiblement.
Et dans cet univers qu'on a essayé de brosser là, dans la deuxième partie de notre émission, bipolarité ou multipolarité, les zones de friction, les constantes, la crise démographique, tout ça c'est quand même depuis Hiroshima à l'horizon du nucléaire. Et moi, à titre personnel, je suis frappé. À propos de la guerre en Ukraine, qu'on évoque à la fois une guerre à haute intensité avec la Russie, sans jamais vraiment évoquer la question nucléaire, si ce n'est de façon un petit peu anecdotique. Est-ce que, pour vous qui connaissez bien les choses, la stratégie nucléaire telle qu'on la connaît en France est adapté à ce monde-là, pour nous Français.
Oui, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir. Croire que ça règle tout le problème serait une immense sottise, mais c'est quand même une très bonne chose de l'avoir. Parce qu'effectivement, ça rend le passage à cet extrême horriblement dangereux, y compris pour l'agresseur.
Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on semble l'envisager. Autant que je connaisse la doctrine gaullienne, on se dote de l'arme nucléaire pour éviter tout conflit à haute intensité.
Oui, tout à fait.
Là, il me semble, de ce que j'entends ou de ce que je vois, c'est qu'on se prépare à un conflit à haute intensité.
Je crois qu'on s'excite un peu d'une manière qui m'apparaît puérile. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas exactement compte de la portée de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. D'un côté, les gens expliquent que l'armée russe est incapable de battre les Ukrainiens, et puis de l'autre côté, qu'elle va envahir l'Europe. Complètement incohérent. Et d'un autre côté, on envisage une guerre avec la Russie qui, en termes de masse disponible sur le plan nucléaire, est comparable aux États-Unis et capable de détruire l'essentiel de la planète. Il faut quand même faire assez attention. Et on explique que M. Poutine est un horrible personnage, horriblement dangereux. Et l'horrible personnage horriblement dangereux a une arme terrifiante dans les mains. Faut faire attention. Donc, c'est vrai qu'on est... Là, il y a une série de propos qui n'ont de sens que parce que c'est des propos de bateleurs à usage interne. Je veux dire, ça permet assez facilement de se donner une posture qui se veut moralisante ou éthique face au méchant M. Poutine, et qui ne coûte pas grand-chose, sauf financièrement. Les morts, c'est les Ukrainiens, c'est eux qui meurent, hein, ce n'est pas nos soldats, ou les Allemands, ou les Polonais. Donc, Ça ne coûte pas énormément tant que ça ne se déclenche pas. Donc ça me paraît être dans le registre de la rodomontade, avec le côté grotesque du sabre de bois. Vous voyez, c'est... Mais évidemment, le problème, c'est qu'on joue avec de la matière fissile et que donc le danger, c'est qu'à un moment, ça dérape. Autrement dit, il vaudrait mieux que M. Poutine ne soit pas complètement battu parce qu'il pourrait devenir très méchant. Mais je ne pense pas que ça, le risque existe. Donc je pense que ça peut être contenu, mais ça peut être contenu malgré les rodomontades. Or là, notre arme nucléaire, d'abord, évidemment, l'idée de passer à un niveau européen ou autre est complètement grotesque, je veux dire, de tout point de vue, puisque ça suppose un pouvoir politique objet d'un respect majeur. Il n'y en a aucun au niveau européen. Mais bien entendu, on peut laisser un vague sur nos intérêts par rapport aux pays voisins, mais ça doit être le plus vague possible, comme ça l'était traditionnellement dans la doctrine française. Mais pour le reste, elle ne sert que par rapport à l'hypothèse où, effectivement, il y aurait une attaque frontale et radicale par un pays étranger, bon, mettons la Russie en l'espèce, et qu'à ce moment-là, on peut en avoir besoin. Simplement, le danger qu'il y a aussi, l'autre danger du nucléaire, c'est qu'on ne voit pas les besoins, ou pas assez, les besoins qui existent par ailleurs, et qui sont, eux, tout à fait considérables. Parce que, bien entendu, le nucléaire gèle l'ascension aux extrêmes de Clausewitz, mais uniquement celle-là, elle ne gêne pas les conflits de rang inférieur qui prolifèrent tranquillement.
Alors, on a deux interventions d'auditeurs. Alors, vous êtes catholique convaincu et vous réfléchissez beaucoup sur les relations entre la foi et puis l'action dans la cité. Et quelqu'un nous envoie un long message que je n'aurai pas le temps de lire, mais qui conclut « Dieu est mort en Occident ». Tout est permis et l'hubris est sans limite. Est-ce,
oui.
Est-ce que, on a une considération métaphysique, sans Dieu tout est permis, et donc on imagine qu'en matière de guerre et de stratégie, tout devient possible.
C'est une partie de la réalité qui est vraie. Bon, la levée en masse que j'ai dénoncée tout à l'heure en est un très bon exemple. C'est-à-dire les armées du XVIIIe siècle, c'était, je crois que l'armée française devait 300 000 hommes, quelque chose comme ça.
Oui, à son maximum.
À son maximum. Et elle n'était pas destinée à augmenter. Ça n'a rien à voir avec les millions d'hommes qu'il y a eu après. Donc là, on a franchi une barrière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas simplement le passage à... Ce n'est pas un passage à un cynisme, c'est un passage à une appropriation, perversion des thèmes moraux. C'est-à-dire, on regarde quand même, parce que le besoin moral est inhérent à l'homme. Donc, un méchant, normalement, utilise des thèmes moraux, mais il se les approprie, il les déforme avec des théories fausses.
Il les justifie.
De la propagande, etc., et il cherche à se justifier. Et donc, le cas de l'Ukraine est un très bon exemple. Donc le danger, plutôt, est la combinaison des deux. C'est-à-dire que, dans le fond, on n'a pas énormément d'inhibition, donc on monte facilement aux extrêmes. Mais de notre côté, on va le justifier par un tas d'arguments moraux, idéologiques, etc., parce qu'on garde quand même ce souci.
Et ce souci qui souvent se traduit par une espèce de croisade au profit des droits de l'homme, nous amène maintenant à nous demander si, dans cet univers laïcisé, même dans le domaine des relations internationales, qu'est-ce que l'Église peut apporter, puisque c'est aussi le sujet de votre livre, et l'apporter du point de vue d'une notion traditionnelle qui est celle du bien commun.
Oui.
Et donc, la thèse dans votre ouvrage, vous dites bien, il n'y a pas d'autorité politique qui surplombe la communauté, entre guillemets, internationale. Donc, l'analogie avec la cité politique, avec un gouvernement, des institutions... Elle n'est pas vraiment opérante, mais pourtant il faut quand même bien que sur cette planète on s'arrange, c'est ça,
voilà.
Avec des États et des souverainetés.
Alors
qu'est-ce que le bien commun, j'insiste sur les deux mots, peut être là en 2026.
Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de bien commun, bien entendu, mais c'est vrai que la doctrine traditionnelle, notamment dans le domaine catholique, consistait à dire le bien commun d'une communauté est quelque chose dont la responsabilité incombe à une autorité qu'on appelle aujourd'hui l'État. Très bien. C'était totalement cohérent avec la situation pour l'essentiel pendant très longtemps, même s'il y avait aussi des dimensions communes au-dessus, mais c'était largement vrai. Maintenant, évidemment, se pose la question de savoir comment on fait dans un monde où les interrelations sont beaucoup plus fortes. Alors le pape François, dans Fratelli Tutti, explique en gros, je pense que sa pensée ne va pas aussi loin que sa plume, mais sa plume, elle, nous explique qu'il y a un bien commun mondial, mais que les États sont plus en état d'assurer leur bien commun au niveau local. Ce qui est bien gentil, mais le problème, c'est qu'il y a une autorité politique avec les éléments de souveraineté, les moyens qui correspondent, qui s'appellent les États, il n'y en a pas au-dessus. Il n'y en a pas. Et on ne voit aucune base politique pour que ça aille dans ce sens-là. Enfin, essayer d'imaginer une autorité politique qui serait capable de se faire respecter ses décisions par la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Union indienne. Enfin,
là, on est dans l'utopie.
Dans une forme d'utopie, mais qui est la limite du comique. Oui. C'est-à-dire, c'est tellement décalé par rapport à la réalité. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, on pourrait tenter à ce moment-là d'avoir une espèce de réalisme politique. C'est quand même une tentation assez forte de Donald Trump, consistant, écoutez, America first, c'est tout, le reste, je m'en fiche. Il est, malgré ses rodomontades lui aussi, il est plus présent dans la pratique. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même plutôt l'idée qu'il met en avant. Et à mon avis, c'est tout aussi erroné, c'est-à-dire qu'on peut considérer l'idée qu'il y a un bien, qu'il faut rechercher le bien, mais simplement, on ne peut pas confier les éléments de bien commun qui peuvent exister au niveau mondial à une autorité. On peut avoir des éléments partiels. Il y a des cas où l'ONU peut être utile.
Oui, ou d'autres organisations internationales.
Ou d'autres organisations. Ça peut être utile, mais ça ne prend pas en charge le bien commun, sauf de manière extrêmement ponctuelle. Donc c'est forcément, l'exigence du bien existe, mais elle tombe sur les États à ce moment-là. Sur les différents États qui, à la mesure où ils veulent chercher le bien, ont ce bien à avoir en tête. Et donc, évidemment, l'élément le plus immédiat de bien...
C'est la paix.
C'est la paix. Oui. C'est la paix.
Donc, c'est là-dessus qu'on peut...
Voilà, c'est
à peu près.
C'est là où on peut trouver des points communs. D'abord, personne ne le remet en cause dans le principe. C'est-à-dire que personne n'affiche une position ouvertement belliciste. À la Hitler, je dirais. Personne. Donc, la paix est un thème commun. Alors, il y a un certain nombre qui peut être parfaitement hypocrite, évidemment. Mais l'avantage des hypocrites, c'est qu'ils reconnaissent au moins le principe. Donc, ça, on pouvait essayer d'agir dessus. En profitant, sans illusion, bien sûr. Mais donc, la recherche de la paix est effectivement un des éléments sur lesquels vous pouvez avoir un dialogue. Et un autre élément qui est très important, c'est d'être bien conscient de ce que vous faites. Vous n'êtes qu'un État, donc vous êtes qu'un des joueurs parmi d'autres. Vous n'êtes pas en surplomb. Vous croyez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Personne n'est en surplomb. Donc vous ne pouvez pas réagir et raisonner comme vous raisonnez à l'intérieur de l'État. Vous devez raisonner en fonction du fait que vous avez ces puissances en face de vous, qui vous aiment plus ou moins, qui sont dans le rapport stratégique qu'on a dit, et qui donc... vont avoir leur propre réaction, leur propre priorité, leur propre centre d'intérêt, et qu'il faut en tenir compte. Ce qui veut dire notamment de ne pas identifier la paix ou quoi que ce soit avec une idéologie. Les droits de l'homme, c'est quelque chose auquel on peut être très attaché comme principe en soi, soit pour agir chez soi, mais ça c'est le bien commun national, soit pour avoir un éclairage sur une certaine dimension pour le reste. Mais vous n'êtes pas en position d'influencer ce qui se passe pour le respect des droits de l'homme chez le voisin. Vous n'êtes pas en position. Ce n'est pas une théorie westphalienne, vous voulez absolument imposer une souveraineté absolue des États. C'est le fait que physiquement, vous n'êtes pas en état d'aller réguler ce qui se passe chez le voisin. Vous pouvez l'influencer, mais vous ne pouvez pas le réguler. Donc, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais pas du tout avec ni les mêmes ambitions ni les mêmes moyens que vous les auriez sur le plan interne, sauf dans des circonstances extrêmement particulières. Donc, vous prenez l'Iran, est tout à fait évident. Qui, chez nous, aime le régime des mollahs ? Personne. Personne. Qui souhaiterait avoir un Iran ? Mais ne serait-ce que l'Iran du Shah, qui avait de gros défauts, qui était assez violent aussi, enfin, qui était quand même infiniment plus vivable que le régime actuel. Et oui, mais ce n'est pas en notre pouvoir de mettre le Shah ou une république ou quoi que ce soit au pouvoir à Téhéran. Ce n'est pas dans notre pouvoir. Et là, c'est l'hubris consiste précisément à dire je mobilise l'idée morale et justifiée du bien du peuple iranien et qu'est-ce que je fais ? Je les bombarde.
Ce qui veut dire aussi que dans la période où on est quand même de baisse de l'influence de l'Occident, on peut dire qu'après la grande période depuis les découvertes, depuis les grandes découvertes, On a eu une domination de l'Occident sur la planète, d'une façon ou d'une autre.
Oui, oui. Bon,
mais tout ça est en train de, s'effacer, en régression. C'est-à-dire que notre, même la vision qu'on a des droits de l'homme ne peut plus s'imposer à travers des institutions internationales comme on a pu tenter de le faire.
Oui, absolument.
Donc par rapport à, et je vous le dites aussi dans votre ouvrage, on a quand même des éléments du droit international pour permettre à des gens qui n'ont pas la même vision de l'homme ou de l'humanité d'arriver à s'entendre du point de vue de la paix. Mais ce droit international, c'est peut-être ce qui est sous-jacent dans la première partie du titre de votre ouvrage, quand vous dites « ni règne de la loi », ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas de règne du droit international. Non. Parce que qu'on l'entend encore souvent sous les plateaux en disant « ah, c'est le droit international ». Mais
ça
n'a
rien à voir avec un droit interne. Je veux dire, c'est pas mauvais. C'est bon d'avoir des repères sur des choses.
Que c'est un langage commun qui permet de clarifier et de situer les débats.
Les débats et de régler certains problèmes mineurs. Mais sur les problèmes majeurs, en dernière analyse, vous retombez sur la stratégie avec deux volontés éventuellement contraires. Et il n'y a pas une volonté tierce d'une autorité
d'imposer.
Qui peut s'imposer. Dans un sens, elle n'existe pas, tout simplement.
Or, depuis 2022, quand même, le discours, quand on entend des diplomates français à la télévision ou dans les paroles pontificales, il y a comme un regret de ce monde qui s'efface, où finalement, je ne veux pas parler d'idéologie, mais enfin, cette vision occidentale de la primauté de la personne, porté par le droit international depuis 1945, était en train de s'effacer et qu'on était face à, une inconnue.
C'est
le sentiment que j'ai en écoutant ces propos.
Qu'on est devant quelque chose de nouveau, ça, il n'y a pas le moindre doute. Mais il faut voir la situation antérieure. En gros, il y a deux situations antérieures.
Il y a une certaine hypocrisie.
Il y a la guerre froide. Et dans la guerre froide, dire que le règne du droit s'appliquait à l'Union des républiques soviétiques est une vaste blague. Je veux dire, il y avait un rapport de force strict, mais évidemment qui était beaucoup plus lisible qu'aujourd'hui, qui était plus idéologique, puisque l'Union soviétique avait un projet idéologique alternatif musclé, je veux dire, et réseau partout. Donc il était plus idéologique, mais il était aussi beaucoup plus clair et beaucoup plus facile. Deuxièmement, il n'y avait aucune forme d'interdépendance économique entre le monde occidental et l'Union soviétique. C'était deux mondes radicalement coupés économiquement. Donc, on était dans une situation beaucoup plus simple, et ce qui fait qu'il y avait des dangers majeurs, comme on l'a vu avec la crise de Cuba, et puis le danger du nucléaire. À l'époque, on était terrifiés par l'idée de guerre nucléaire, il faut quand même se le rappeler. Je veux dire, ce n'est pas le droit international qui aurait réglé cette affaire-là. Ce qui a réglé cette affaire-là, c'est qu'aussi bien du côté américain que du côté soviétique, et aussi du côté soviétique, il faut le dire, il y a eu une formidable retenue, c'est-à-dire un contrôle de soi, parce qu'on se rendait compte que ça pouvait être totalement désastreux. Mais c'est ça qui a fait l'équilibre à l'époque. Alors après, il y a eu une courte période où on pouvait avoir l'impression que l'hégémonie américaine pouvait donner une forme de consistance. Bon, le droit international n'a pas empêché les Américains d'envahir l'Irak en 2003, et ça ne respectait aucune des règles du droit international. Contrairement, encore une fois, à la guerre du Golfe pour le Koweït. Mais en 2003, il n'y avait aucune des règles. En quoi est-ce que ça a empêché les Américains d'intervenir? En rien. Et donc, en fait, c'est une vision rétrospective qui est assez moderne. Simplement, je pense que ce que ça traduit, ce n'est pas le fait qu'il y avait le règne du droit, c'est que le fait que les rapports de force étaient moins mouvants, avec des dominantes beaucoup plus fortes. Donc, évidemment, c'est sécurisant, mais ça ne bougeait pas trop. Là, maintenant, ça bouge. Là, ça bouge, et puis on voit que ça bouge, et puis on ne sait pas trop sur quoi c'est stable. Vous croyez que c'est assez stable, mais non, ce n'est pas stable, ça bouge, ça monte. Et alors, évidemment, il y a une angoisse, et on se demande comment on va faire. Comment faire parler ensemble les États-Unis et la Chine populaire? Ce n'est pas très évident. Mais dire que le droit va être une réponse, oui, ça peut être un outil intellectuel, du vocabulaire, tout comme ça. Ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont se restreindre et ne pas s'agresser mutuellement.
Alors, dans ce cadre-là, le bien commun que vous évoquez, donc, je le répète, ça peut être que des éléments, mais qui sont liés en fait à la paix, à la volonté le ou au souci de
c'est,
paix.
C'est la paix qui est le principal et de loin. Voilà. Je veux dire, faut se rappeler que le but premier du politique, même en interne, toujours par notre bon Saint-Augustin, cher au pape Léon...
C'est la tranquillité de l'ordre.
C'est la paix et la tranquillité de l'ordre. La tranquillité de l'ordre, ce n'est pas un programme idéologique. La tranquillité de l'ordre, c'est une forme de paix aussi, à sa façon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui apparaît dans le fonctionnement de la communauté, qu'elle apparaît acceptable, de sorte qu'elle n'est pas remise en cause violemment par les uns ou par les autres, et que les gens s'y retrouvent plus ou moins. C'est pas les droits de l'homme.
Mais
hein.
donc finalement, mais ça c'était avant l'émission. Vous me disiez au fur et à mesure de l'histoire de la papauté et puis des évolutions du sentiment religieux ou de la foi, notamment en Europe, le Saint-Siège n'a plus d'influence politique. Mais il a un réseau diplomatique important. Et là encore, en vous entendant, j'étais en train de me dire que finalement, cette question du bien commun lié à la paix, à la tranquillité de l'ordre, c'était une façon pour l'Église de revenir dans le jeu, non pas par corporatisme, mais pour dire que finalement, elle était porteuse de quelque chose de très concret qui s'appelait la paix et l'ordre, et que ça pouvait parler à tout le monde.
Voilà, et ça, à mon avis, quand l'Église est sur ce terrain-là, elle est totalement justifiée.
Mais...
Elle a une portée, mais à condition qu'elle ait fait le travail intellectuel de ne pas confondre ses prises de position avec l'attitude qu'on appelle faussement prophétique, qui est en fait une attitude idéologique où on se met dans les nuages et où on prononce des jugements à distance. C'est plus facile, c'est plus confortable. Il y a beaucoup de prélats qui donnent dans cette tendance-là, mais c'est pas ça qui amènera un progrès réel. Autrement dit, marteler l'importance de la paix, oui, mais par exemple, ça veut dire garder la théorie de la guerre juste, qui est un garde-fou, qui n'est pas du tout un justificatif, c'est un garde-fou.
Et ça veut dire accepter la perspective de la guerre liée à la condition humaine.
Ça existe. Comme
d'où la perplexité dont je vous faisais part avant l'émission. Quand Paul VI, à la tribune de l'ONU, avait dit « plus jamais la guerre », c'est comme si, d'une certaine façon, on disait « plus jamais la mort ».
Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que, comme exhortation morale en disant « ayez ça à l'esprit
à l'horizon.
Parce que c'est épouvantable », il avait totalement raison. Ouais. Ça veut dire « je vise un état utopique », c'est ce qui me gêne, par exemple, pour être totalement franc, dans le terme de « civilisation de l'amour ». Le mot est merveilleux.
Oui.
Mais ça donne l'impression qu'on peut arriver à un état utopique.
Un état un peu angélique, ici-bas.
Une civilisation de l'amour serait utopique.
Oui.
Bon,
et les utopies sont toujours dangereuses.
Alors, autrement dit, dire aux chrétiens, l'amour, c'est une priorité absolue pour toi, oui, ça, c'est tout à fait clair, ça s'appelle la charité. Donc, c'est tout à fait justifié. Mais ça ne veut pas dire que tu vas croire que, utopiquement, par ton action à toi, tu vas la créer autour de toi. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout comme ça. Ils ne réagissent pas de la même manière. Et puis que toi-même, tu ne sais pas nécessairement analyser toutes tes tendances. Tu es aussi un homme pécheur, donc tu peux être aussi une occasion de violence. Exactement, par exemple, quand tu t'exaltes sur le plan idéologique et que tu lances des guerres idéologiques à l'américaine ou à l'occidentale.
Donc il y a urgence du côté catholique à reconnaître, à mon avis, le caractère inévitable de la guerre.
C'est-à-dire inévitable dans certaines circonstances.
Dans certaines circonstances.
Voilà,
mais si vous la refusez complètement, vous n'êtes plus capable de la penser, et si vous ne la pensez plus parce que vous l'avez écartée de l'histoire, eh bien vous n'apportez plus rien à l'humanité.
Vous n'apportez rien à l'humanité, mais d'autres, eux, penseront.
D'autres
la penseront. Et donc, il y a, sur ce plan-là, un grand besoin d'élaboration doctrinale lucide, conforme à l'attitude historique, à la position doctrinale historique de l'Église.
Et est-ce que vous allez y contribuer déjà par vos ouvrages sur la guerre juste il y a un an, maintenant vous approfondissez le sujet et vous mettez d'une certaine façon les responsables ecclésiastiques en face de leurs responsabilités.
Si vous voulez, le paragraphe de l'encyclique Magnifica Humanitas, qui est par ailleurs tout à fait remarquable sur l'intelligence artificielle, il y a un paragraphe là-dessus où on disait: la théorie de la guerre juste a été utilisée pour justifier n'importe quelle guerre. C'est faux. Celui qui a mis ça dans la plume du pape, qui est le même pape, n'a pas réfléchi. La secrétaire d'État n'a pas fait son travail, parce que ce n'est pas vrai. que des milliers de gens ont fait des guerres en disant que leur guerre était juste, ça c'est évident. Mais que des gens ont fait des guerres en se réclamant de la théorie catholique de la guerre juste, j'aimerais bien savoir qui.
Et d'ailleurs, c'est au paragraphe 192 de l'encyclique que vous citez, il est indiqué « Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de réaffirmer le dépassement de la théorie de la guerre juste, trop souvent invoquée pour justifier n'importe quelle guerre, c'est ce que vous dites, sous réserve du droit à la légitime défense dans le sens le plus strict. »
Oui, mais là encore, cette phrase est un moyen de se rattraper. Mais qu'est-ce que c'est que la légitime défense dans le sens le plus strict ? Il faut la définir. Et c'est précisément une grande partie du problème.
Et donc, vous allez nous offrir un prochain ouvrage pour creuser et approfondir la réflexion que vous conduisez sur la question de la guerre et de la guerre juste et de la relation entre le droit et la guerre.
Je pense que c'était une élaboration à faire au sein de l'Église. Mais vous voyez, le pape Léon vient d'arriver. Et il est né dans un contexte qui était de grande proximité avec le pape François, même s'il a une personnalité assez notablement différente. Donc on ne sait pas comment il va développer ses points avec sa parole propre. Je vous dis, ça fait plusieurs fois que je vois des paroles qu'on met dans sa bouche, qui sont fausses. Par exemple, quand il parle de la Turquie et du Liban comme modèle de cohabitation entre chrétiens et musulmans, c'est une totale aberration. Je veux dire, les gens qui ont mis ça dans sa bouche, il l'a dit. Qui ont mis ça dans sa bouche sont des irresponsables totaux. Mais je ne pense pas que le pape Léon ait réfléchi à cette question-là, travaillé le sujet d'une manière ou d'une autre. Il a fait confiance à ses services. Donc, qu'est-ce qu'il dira demain ? Je n'en sais rien. Je ne le considère pas lié par ses premières déclarations trop rapides et trop dans la continuité du pape François, sous d'ailleurs une forme de simplification par rapport au pape François. C'est trop proche de ça pour représenter sa pensée propre. Mais alors, sa pensée propre, c'est à lui à nous la dire.
Hein. Eh bien écoutez, cher Pierre, l'émission s'achève. Encore un grand merci pour ce moment d'entretien et de partage sur des sujets qui sont essentiels. Merci beaucoup.
Un grand merci à tous. Un grand merci aux auditeurs et auditrices.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Défense dirigé par Philippe Nicolardeau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 7 septembre 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.